On ne sait pas très bien dans quel sens les choses vont évoluer. Et donc, pratiquement tous les 2 ou 3 mois, il y a des changements, il y a des rebondissements dans cette guerre. Donc, on n'est de loin pas dans une phase de diplomatie et de résolution du conflit. On est plutôt, malheureusement, dans une situation d'extension du conflit. Il faut peut-être rappeler que Vladimir Poutine a utilisé ce terme d'opération spéciale, donc une guerre limitée pour la Russie. Au début, il y a pratiquement une année. Or, aujourd'hui, ce conflit est en train de devenir un conflit existentiel pour la Russie et d'ailleurs pour toute une série d'autres pays. C'est devenu un conflit tout à fait majeur.
On a l'impression que chaque camp semble faire des avancées plutôt modestes, en tout cas ces dernières semaines, sans réussir vraiment à prendre le dessus. Vous partagez?
Les premiers jours du conflit, on a pu faire le parallèle entre un sprint, c'est-à-dire vous avez la possibilité de consolider, de créer, de générer des forces, d'entraîner, de préparer les unités pour une action rapide, une action décisive. Et puis on s'est rendu compte très rapidement, au bout de quelques jours, que cette action décisive a été un échec pour la Russie, en tout cas. Et depuis lors, on est en train de se réorganiser, de se réinventer. Et en fait, aujourd'hui, l'analogie du sprint ne tient absolument pas. On est dans une espèce de marathon. Et si vous pratiquez un petit peu ce sport-là ou cette activité-là, bien vous savez qu'il y a des hauts et des bas, il y a des vagues, il y a tout d'un coup des ressources parce qu'on réussit à régénérer des forces ou on reçoit des appuis de l'étranger, en l'occurrence. Et puis, il y a d'autres moments où on est essoufflé, où on n'en peut plus, on n'y croit plus. Il y a des difficultés internes. Et en fait, c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui, et malheureusement, ça peut durer encore un certain temps.
On disait il y a une année, ouais, c'est le retour de la guerre en Europe, c'était inconcevable. Aujourd'hui, quelles sont, entre guillemets, les leçons, selon vous, que la géopolitique mondiale doit tirer de cette année de conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine?
Aujourd'hui, la guerre est en Europe. Elle est ancrée en Europe parce que beaucoup de pays, y compris les pays européens, qui ont été dans le déni très très longtemps de cette possible menace, eh bien aujourd'hui en Europe, on est en train d'augmenter les budgets de défense. On est en train de chercher désespérément à créer des réserves parce que les armées professionnelles sont trop petites. Elles ne peuvent pas répondre à ces besoins de défense territoriale. Et c'est ça la leçon. C'est que parce que quelque chose n'est pas très probable dans un avenir immédiat, eh bien, il ne faut pas baisser sa garde, il ne faut pas imaginer que les choses n'existent pas parce que ça ne nous arrange pas et parce que ça coûte trop cher.
On lit, on entend les spécialistes assez partagés sur la suite, le ou les scénarios. Quel est le plus probable pour la suite de ce conflit, à savoir une possible victoire ukrainienne, une victoire russe ou alors un conflit qui, entre guillemets, végète encore pour quelques années?
Bah écoutez, on en parlera ce soir au Club 44. Moi, j'ai toujours cru qu'il n'y avait finalement que deux scénarios de base. Le premier scénario, c'est le lent pourrissement de la situation. Et puis l'autre, c'est l'extension du conflit, qui bien sûr implique de nouveaux acteurs, de nouveaux moyens, de nouvelles technologies ou peut-être de nouvelles armes qui seraient employées. C'est un peu ça, les deux scénarios de base auxquels on assiste ou que l'on voit se développer depuis le début de ce conflit. L'Ukraine et la Russie ont perdu en l'espace de quelques mois 50% de leur potentiel militaire, donc 50% de leurs chars, 50% de leur système d'artillerie, 50% des avions qui ont été engagés. Donc ce sont des pertes qui sont absolument considérables, qui sont inimaginables. Le résultat de cela, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir ne serait-ce que se maintenir, ne serait-ce que pour pouvoir continuer de se battre, aussi bien les Ukrainiens que les Russes sont obligés de sortir des réserves, des engins et des armes des années 1960. Ils sont obligés d'aller quémander aux uns et aux autres du matériel de guerre pour pouvoir simplement se maintenir. Donc le véritable enjeu, il est là. Comment est-ce que industriellement, comment est-ce que économiquement, on va pouvoir maintenir, rester dans la bataille, rester dans la bagarre jusqu'au bout. Et je crois que malheureusement, la victoire, ce sera pas quelque chose de très très glorieux et de magnifique. Enfin, on n'est pas du tout dans un film hollywoodien. Malheureusement, ça risque d'être le dernier combattant qui est encore debout au moment où on entend le clap de fin.